qui est historien et qui ont travaillé à la réalisation de ce livre et qui étaient des familiers, des proches de Pierre Bourdieu. Moi, je voudrais savoir pourquoi ça s'est passé en France, cette histoire-là. Manet est français quand même, hein. Et c'est, cette histoire est très française. Pourquoi pas chez nos voisins?
Dans ces cours des années 90, Bourdieu analysait la montée progressive de l'emprise étatique dans le monde social. Avec le livre sur Manet, enfin ses travaux sur Manet, c'est paradoxalement un livre sur le retrait de l'État d'un secteur particulier, mais le retrait de l'État. Et donc, je pense que c'est une des clés aussi pour comprendre pourquoi en France c'est qu'il y avait un rôle de l'État. Mais enfin là, je pense que Christophe Charles a beaucoup plus à dire que moi. Mais il y avait un rôle de l'État extrêmement important. Auquel finalement on assiste.
En matière de peinture.
En matière de culture, de littérature.
De beaux-arts, enfin, etc.
Depuis la monarchie, en fait, c'est une vieille histoire. L'État intervient beaucoup plus que dans tous les autres pays pour donner des normes, former des écoles avec l'école des beaux-arts, la Villa Médicis, enfin, toutes ces institutions.
Est-ce que ça veut dire que Manet illustre ça?
En tout cas, il se heurte à un monde où l'État est présent. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'insistais sur la révolution de 48, parce que la révolution symbolique en peinture a été aussi partie liée à la révolution politique, puisque en 48, c'est la première fois où le salon est libre, c'est-à-dire l'État, enfin la République décide qu'il n'y aura plus de jury, que tous les peintres auront le droit d'exposer, donc on a une explosion, 6000 œuvres au lieu de 3000 d'habitude, donc il y a un climat de liberté, donc c'est à la fois lié au fait qu'en France l'État effectivement joue un rôle tout à fait central dans la vie culturelle, et en même temps la France est un pays où il y a des ruptures politiques révolutionnaires tout au long du 19e siècle, et en particulier à la génération de Manet avec 48, donc c'est un élément d'explication, c'est ce côté central de l'État dans la culture, et en même temps, le fait que l'État est chahuté à ce moment, et les peintres participent de ce chahut général, qui n'est pas seulement pictural, il est aussi social, il est aussi démocratique, etc. Donc on a une conjonction de facteurs dont on n'a pas l'équivalent, puisque, bien sûr, en Angleterre, il n'y a pas eu de révolution de 48, en Allemagne, il y en a une, mais elle a échoué. Donc il y a une conjonction très politique et en même temps très spéciale qui font que cette génération de peintres a pu se poser cette question dans des termes tout à fait nouveau par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays ou par rapport même à ce qui se passait à la génération d'avant.
Mais ce qui va faire que la France et Paris, hein, oui, c'est plutôt Paris qu'on aurait dû dire.
Tout
on aurait
se passe
dû
à
dire,
Paris,
oui, tout se passe à Paris, en France, tout se passe
en
à Paris.
En tout cas, pour la peinture et pour la politique, tout
voilà,
se passe à Paris.
Ce qui va faire qu'après Manet, la scène de la peinture, enfin des beaux-arts, ça va être Paris, quoi, jusque dans les années 60. Il y a une suite à cette histoire.
Oui, parce que justement, cet événement, cette révolution symbolique qui réussit plutôt à Paris qu'ailleurs, va donner des idées aux autres peintres des autres pays, et beaucoup vont venir à Paris pour s'imprégner, en fait, de cette nouvelle atmosphère qui les libère des conventions et des contraintes qu'ils ont encore dans leur pays. Donc il y a aussi ce côté terre promise pour les artistes des autres pays. Donc ça montre bien la centralité, à la fois de la scène politique, de la scène artistique, ouais, et de la France dans l'Europe de cette époque. Et plus que l'Europe, d'ailleurs, puisqu'il y a des Américains aussi qui viennent.
Et tout se réfère à Manet. Je parlais de Picasso tout à l'heure en commençant. Il y a une série fameuse de toiles de Picasso dans les années 60.
Oui, oui, il refait le Déjeuner sur l'herbe à sa façon.
Il interprète toute une série de Déjeuner sur l'herbe. Enfin, il se lance dans une série d'interprétations du Déjeuner sur l'herbe.
Je vois un oiseau qui vole. C'est très rare. C'est un instant, comme un photographe. C'est pas un grand pique-nique. Et ce n'est pas à manger. C'est à peindre et pas à manger.
Patrick Champagne, vous étiez un familier de Bourdieu. À quoi ça ressemblait une journée de Bourdieu? J'ai entendu dire par des amis que à 6h du matin, 7h du matin, il appelait les gens pour demander des explications ou donner des explications. C'était un bosseur fou, ce Bourdieu.
Oui. On a reproduit d'ailleurs dans le livre deux pages, l'une de ses notes de cours et l'autre des notes préparatoires au manuscrit inachevé. Et je pense que ces pages reproduisent assez bien la complexité de la pensée de Bourdieu, le nombre de choses qu'il essayait de mettre en relation et qui se traduisaient aussi dans son écriture. Enfin, la complexité du monde est telle que, pour en rendre raison, il faut souvent avoir un style extrêmement compliqué. Donc il avait à la fois une capacité de travail hors du commun, enfin, là, ce que vous évoquez, je parle tous les détails, mais il avait eu...
Il dormait pas beaucoup.
Il dormait pas beaucoup.
Alors, il y a un mot sur lequel je voudrais vous interroger, quand même, puisque vous êtes en train de parler de